17h28, on entre dans la data room. Le poids et le choc des data, c'est votre collision quotidienne avec le réel. La data room. David et Emmanuel, êtes-vous prêts ?
Oui,
oui.
C'est ici et maintenant que tout va se jouer. Vous avez chacun 1 minute 30 pour présenter une data forte et pourquoi ceux qui nous suivent doivent l'avoir en tête avant d'investir. David, votre chiffre, votre data aujourd'hui, c'est 2,9%.
Absolument, c'est la révision, enfin l'estimation de la croissance américaine pour 2024, donc du PIB américain. 2,9%. On avait démarré l'année, les anticipations étaient plutôt aux alentours de 2,1 à 2,3. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu trop d'enthousiasme dans ce 2,9? C'est possible, mais il n'empêche qu'on ne se lasse pas quand même de voir cette capacité de l'économie américaine à finalement sans cesse être capable de créer de la croissance avec des vecteurs extrêmement structurels et structurants, solides en place. Les plans d'investissement, le plan de lutte contre l'inflation, le plan de semi-conducteurs, qui sont tous des plans qui sont orientés vers les entreprises, vers la création d'emplois, vers la création de valeurs, la création de propriété intellectuelle et d'innovation finalement. Et puis en même temps, on voit ce marché du travail qui reste extrêmement solide. On a cet effet sur les classes sociales, avec finalement une amélioration du revenu réel après impôt depuis 2 ans d'une majorité de la population américaine. Donc là aussi, il y a un effet richesse qui se retrouve en fait dans ces éléments-là. Oui. Et puis, et donc ça nous fait dire, mais oui, peut-être que la Fed ne va pas pouvoir baisser ses taux, mais il y a un moment où il va falloir qu'on reconnaisse quand même la qualité de cette croissance. Et si véritablement les États-Unis arrivent à nous sortir 2,9% cette année, on peut imaginer derrière que les sociétés, pour une majorité d'entre elles, ne vont pas décevoir. Et on va être sur des multiples peut-être de 2 fois, 3 fois. Donc peut-être du 8, peut-être du 10% de croissance après déjà une année 2023.
Des marchés, des indices.
Croissance des profits des grandes
profits,
sociétés.
Oui, d'accord.
Mais bien sûr, il y a une partie de tout cela qui va se traduire en performance de marché et en révision, finalement, en baisse des valorisations, qui sont toujours le sujet avec les États-Unis, mais finalement, cette prime...
C'est incroyable, parce qu'on est à peine au mois d'avril, et donc la prévision de croissance pour cette année 2024 était à 2,3% pour les États-Unis cette année. On est à peine au mois d'avril, on est passé de 2,3% en janvier à 2,9% attendu, finalement, là, au mois d'avril.
Ouais.
C'est quand même... Ça va très, très vite, effectivement. Alors, le marché price à 20%, c'est pas beaucoup, 20%, mais c'est pas rien non plus. 20%, peut-être encore une hausse de taux finalement de la Fed face à cette croissance. Le débat est ouvert.
C'est une hypothèse qu'on peut pas complètement retirer, c'est vrai.
Effectivement. David, c'est livré à vous, Emmanuel, de nous éveiller ce soir. Votre data, 210 milliards d'euros.
Effectivement, Guillaume, 210 milliards d'euros, c'est le montant exceptionnel, historiquement élevé des rachats d'actions des entreprises européennes en 2023. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Pour les investisseurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, hein, puisque ça renchérit effectivement le prix des actions par la diminution du nombre d'actions en circulation. Il faut rappeler à nos auditeurs, effectivement, que les entreprises ont 2 façons de rémunérer, finalement, leurs porteurs de titres, soit par le truchement de dividendes, donc par le versement d'une quote-part du résultat, avec une certaine récurrence, une stabilité dans le temps qui vise à récompenser la fidélité de l'actionnaire, soit par des rachats d'actions qui, traditionnellement, en Europe, présentaient un caractère assez exceptionnel et principalement en France où, dans le passé, ces rachats d'actions faisaient l'objet d'un régime fiscal qui était assez défavorable. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, les sociétés se donnent libre cours dans ces pratiques avec, il faut le signaler, une participation active du management dont la rémunération est en grande partie liée à la progression des cours participe à ce mouvement. Donc c'est plutôt bon pour le management, c'est plutôt
pour
favorable,
les actionnaires, ouais.
Effectivement pour les investisseurs, dans un contexte où le rendement des actions européennes, j'entends le rendement du dividende est plus élevé que celui de leurs homologues outre-Atlantique.
4,5% le rendement moyen des marchés européens, 4,5% contre 3,8% à peu près le rendement
absolument,
moyen de Wall Street.
Absolument, ouais. Ça c'est une tradition européenne et on doit finalement considérer que c'est un élément culturel qui est plutôt favorable.
C'est le rendement, c'est le fameux un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Oui, c'est cette dimension, comment dire, on peut dire d'économie de rente, mais sans y apporter d'ailleurs une connotation nécessairement défavorable, mais qui est le propre effectivement de l'actionnaire européen, avec un marché qui était traditionnellement moins liquide, moins profond que le marché américain. Donc c'est plutôt bon pour les investisseurs. En revanche, pour l'économie, bah, c'est là où on doit se poser la question. C'est-à-dire que ça veut dire que les idées, quand les entreprises ont moins d'idées d'investissement, et que l'Europe s'enfonce dans une certaine situation de sous-investissement qui existe malheureusement depuis longtemps.
Effectivement, donc 210 milliards d'euros de montant rachat d'actions en Europe en 2023, cette data que vous nous proposez. Dernière question, à Wall Street, on réfléchit sur le New York Stock Exchange à stopper, à arrêter les horaires d'ouverture et de fermeture et avoir une cotation permanente et continue, un peu comme sur les cryptos où il n'y a pas de week-end, il n'y a pas d'horaire de nuit, etc. Voilà. Ce serait bien ou pas ?
Alors, je pense que ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est de lutter un peu contre toutes les transactions qui sont faites hors heure de marché. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les dark pools ou les black pools. Et c'est vrai que c'est une partie d'activité qui leur échappe. Donc on peut comprendre de leur point de vue cette logique, finalement, d'être ouvert 24 heures sur 24. Par contre, là où, personnellement, ça me pose question, c'est que finalement, une action, c'est quand même un titre de propriété. Et un titre de propriété, théoriquement, on l'achète pas pour le revendre un quart d'heure après ou une demi-heure après. Alors c'est déjà possible aujourd'hui avec les heures d'ouverture. Mmh. Mais finalement, de créer cette ouverture 24 heures sur 24, c'est vrai que ça va entraîner alors peut-être plus de liquidité, mais c'est une liquidité artificielle parce que c'est une liquidité avec un seul dollar. On va avoir de multiples opérations tout au long de la journée. Mmh. C'est pas très sain. On sait sur le long terme, on paye toujours, on finit toujours par payer ce genre de prix lorsque il y a un effet de levier beaucoup trop important.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir sur la Data Room et le club David Go pour B Durand Capital et Emmanuel Salle qui va rester avec nous. Emmanuel, parce qu'on a beaucoup de valeurs, beaucoup de publications et de valeurs sur lesquelles les auditeurs et téléspectateurs nous interrogent. Donc si vous voulez bien, Emmanuel, on continue.
Ah, voilà.
Ok, donc on refait la séance dans un instant et la clôture à vie, bien sûr. Etienne Braque sera avec nous depuis là. Tour Euronext, merci beaucoup et à tout de suite.